Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Vous savez dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous sommes sur le point d'entamer une série d'études sur comment avoir la maîtrise des lois qui contrôlent la grandeur. C'est un thème important qui va vous amener à comprendre beaucoup de vérités. Et ces vérités, bien sûr, les comprenant, vont booster votre vie vers le sommet. Aujourd'hui, nous allons nous évertuer à parler de trois lois essentielles. La loi de la décision, la loi de la résolution, de la concentration, et nous terminerons par la loi de l'intégrité et nous continuerons avec d'autres lois bientôt. Je vous encourage à suivre et surtout à comprendre ce qui est en train d'être dit, à les mettre en pratique et vous verrez votre vie complètement transformée. Que Dieu vous bénisse.
Matin, tu touches les cœurs, tu changes les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, ce matin, je reçois une grâce nouvelle pour accomplir ma destinée. Acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comprendre les lois qui contrôlent la grandeur. Nous sommes à la deuxième partie et dimanche dernier, on a parlé de trois lois importantes pour toute personne qui désire devenir grand. Alléluia. Devenir grand, donc, est la volonté de Dieu, on l'a dit. Lorsque Jésus a surpris les disciples en train de discuter sur l'éventualité de la personne qui allait être le plus grand parmi eux, Jésus ne s'est pas plaint de ce que les disciples voulaient devenir grands, mais il leur a seulement dit comment devenir grand. Alléluia. Ils étaient en train de dire, qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand parmi nous? Jésus est venu dire non. Que celui qui veut devenir le plus grand soit comme ce petit enfant. Donc, il a montré la voie à suivre pour devenir grand, parce que la grandeur est naturellement la volonté de Dieu. Toute personne sortie de Dieu est destinée à grandir. Est-ce qu'on peut dire toute personne sortie de Dieu est destinée à grandir? Non, sincèrement, si tu es né de nouveau, tu auras des ambitions de grandeur. Parce que Dieu t'a communiqué sa nature. Et l'une des choses qui caractérise le Dieu que nous servons, c'est la grandeur. Mais lorsque je parle de grandeur ici, je ne parle pas forcément d'avoir plein de richesses, de bâtir des maisons, de construire des cathédrales. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vais vous expliquer que la grandeur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour Dieu, mais c'est quelque chose qu'on devient pour Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ça? La grandeur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour Dieu, mais c'est quelque chose qu'on devient pour Dieu. Donc, qu'importe ce que tu peux faire, ce n'est pas ça qui va faire de toi un grand homme. Si toi-même, tu ne deviens pas. Alléluia. Quelqu'un peut ne pas avoir des milliards, hein, mais il peut être un grand homme, alléluia, par les vertus, par le charisme et par le poids qu'il a. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il y a des gens qui ont plein de choses, mais qui ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas. Donc, la grandeur est quelque chose qu'on devient pour Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'Église, si vous comprenez que la grandeur est quelque chose qu'on devient pour Dieu, alors vous devez rechercher cette grandeur-là. Mais pour y arriver, j'ai dit, il y a des principes importants à observer. La première chose que j'ai dit, c'était la loi de la décision. J'ai dit qu'il n'y a pas de grandeur sans décision. Toutes les personnes qui deviennent, à un moment donné, ont décidé de devenir. Si vous ne décidez pas de devenir quelque chose, vous ne le serez pas. Parce que le hasard, là, c'est dans le monde peut-être qu'on peut croire. Mais dans l'Église, le hasard n'existe pas. Si par hasard, tu deviens grand, par hasard, tu vas devenir petit. Pourquoi? Parce que pour devenir grand, il y a des principes qui sont comme des escaliers qui vont te soutenir et qui vont t'amener jusqu'au sommet. Si ces principes-là ne sont pas là, un jour, tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler un jour. Et vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire le fait d'être dans une église évangélique ne doit pas être tout. De venir s'asseoir ne doit pas être tout. Il faut avoir les bonnes idées, avoir la bonne compréhension des choses spirituelles pour pouvoir vous en sortir. Parce que dans tous les cas de figure, vous êtes chrétien pourquoi alors? Pourquoi? Est-ce que c'est pour remplir les chaises? Non. Mais vous êtes chrétien d'abord parce que Dieu vous attend quelque part. Dites amen. Et ce quelque part là, c'est au sommet de votre vie. Alléluia. Et donc la décision est importante. Et un homme qui n'a pas appris à prendre des décisions. Et malheureusement, la plupart des chrétiens vivent ou sont dans des secteurs d'activité. Mais en fait, c'est des choses que la vie leur a imposées. Ce n'est pas des choses vraiment qu'ils ont décidé de faire. Tu peux voir quelqu'un, il est médecin, mais en réalité, il n'a jamais voulu être médecin. Ça fait qu'il est médecin sans développer son potentiel jusqu'à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi d'être la chose, il subit la chose. Et la plupart des gens subissent beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais décidé d'être. Ma prière pour toi ce matin, c'est que c'est encore possible. Dis amen. Tu peux encore décider ce que tu veux devenir dans la vie. Tu peux encore décider où tu veux arriver. Tu peux encore décider ce que tu veux faire de ta vie. Que veux-tu faire de ta vie? Veux-tu que ta vie soit une vie anonyme? Que veux-tu faire de ta vie? Tu peux décider et la chose arrivera. Dis amen. Dis amen. Devenir grand est un choix. On décide d'être grand et on travaille pour devenir grand. Alléluia. On décide d'arriver au sommet et on se prépare pour arriver au sommet. Jésus a dit, il n'y a personne qui veut bâtir une tour qui ne s'assoit pour faire des calculs. Sinon, si réellement tu n'as pas pris la décision de devenir grand, la grandeur va te tuer. Et beaucoup de gens sont partis comme ça parce qu'un miracle s'est opéré dans leur vie. Ils sont devenus importants et la popularité ou l'argent leur a fait des suggestions qui les ont perdues. Parce que l'argent parle. Et si tu n'as pas fait tes classes pour savoir discerner la voix de Dieu et de l'argent, l'argent va te donner des idées qui vont t'envoyer dans le trou. Les gens qui ont l'argent ne sont pas en paix. Parce que l'argent leur parle toujours. Il leur dit beaucoup de choses. Demandez-leur s'ils sont en paix. Ils vont vous dire. Donc si tu veux avoir l'argent, ce qui est normal, mais il faut comprendre ces principes. Donc, décider. Tout le monde parle de décision. Est-ce qu'on peut dire décision? On ne va pas entrer dans les détails de tout ce qu'on a dit. Deuxième loi qu'on a vue, on a parlé de quoi? On a parlé de la loi de la concentration ou de la résolution. La Bible dit un homme qui n'est pas concentré, qui n'est pas résolu, est un homme que Dieu ne peut rien faire avec lui. Et vous voyez, il n'y a aucune grandeur sans concentration, sans résolution. C'est-à-dire quoi? Il faut pouvoir avoir quelque chose qui fixe tes idées. Parce que j'ai dit qu'un homme qui a des idées libres ou qui a des pensées libres est un homme qui fait de ses pensées le terrain de football du diable. Parce que là où tes pensées ne sont pas occupées, Satan va les occuper. Donc, il était important pour nous les chrétiens de ne pas être des gens oisifs, mais d'avoir des objectifs clairs qui fixent nos pensées et qui dirigent nos pas. Parce que là où il n'y a pas d'objectif clair, on est oisif, on ne sait même pas où on va. Et les gens qui nous créent le plus de problèmes dans nos églises sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont entrés dans l'église par hasard, ils sont assis là, ils ne savent même pas où ils sont. Donc, comme ils sont oisifs et ils ne vont nulle part, alors, point rien, ils ont un mot à dire. Mais un homme, tu vois qu'un homme qui a quelque chose à faire, n'a pas de mot à dire pour tout. Tu peux lui demander certaines choses, il n'a rien à dire, il n'a pas d'avis. Pourquoi? Parce que il est trop concentré pour avoir des avis sur tout. La chaussure est bleue, il a son avis à donner. La chaussure est verte, il a son avis à donner. La femme est mal coiffée, il a. Mais un gars comme ça, il n'a rien à faire. Alléluia. Il faut avoir quelque chose qui te fixe. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a fixé les idées d'Abraham sur quelque chose de clair et de précis, de telle sorte que dans sa marche avec Dieu, il ne soit pas distrait. Parce qu'il y a tellement de sujets de distraction. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui ont trouvé leur période favori, les élections. Pourquoi? Parce que voilà un moment où ils seront heureux, où ils pourront parler beaucoup, où ils pourront donner leur point de vue, où ils pourront se faire valoir. Mais quand les élections passent, ils cherchent maintenant un autre événement. La Coupe du Monde a été son événement favori. Coup de main fini, il a trouvé l'élection pour être heureux. Mais un tel type, il ne s'en sort pas parce que sa vie est rythmée par ce qui se passe à l'extérieur. Mais un homme qui va quelque part doit être quelqu'un où, qu'importe ce qui se passe, il est serein, il peut regarder, il peut dire, ok, ça se passe, on va faire ça. Mais c'est quelqu'un qui reste focalisé sur ce qu'il a à faire, quel que soit ce qui se passe. Il y a des gens qui sont perturbés, qui n'arrivent même plus à aller à l'église, qui n'arrivent même plus à faire de certaines choses à cause d'élections. Tu vois, il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église dimanche. Ils ne vont pas venir. Ça fait qu'un gars comme ça, il ne faut pas t'amuser pour mettre une fête quelque part. S'il y a une fête quelque part, c'est-à-dire, il va tronquer tout de suite les affaires du Seigneur parce qu'il cherche toujours quelque chose pour l'occuper et puis pour rendre sa vie gaie, quoi. Il faut être focus. Tout le monde dit, il faut être focalisé. Il faut avoir un objectif, de telle sorte qu'on ne puisse pas te détourner. Il fait chaud, il fait froid. Toi, tu es dans l'objectif de Dieu pour ta vie. Tu sais où tu vas, tu sais pourquoi ta vie est là, tu sais là où Dieu t'envoie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et quand on devient comme ça, alors rien ne peut nous distraire. On devient des véritables enfants de Dieu. Jésus l'a dit. Il dit, ne m'importunez pas. Je suis venu pour faire les œuvres de mon Père. Il dit, la nuit vient où personne ne peut faire cette œuvre. Ça veut dire quoi? Il dit, j'ai une urgence. J'ai des choses à accomplir. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et je vais vous dire, Jésus n'a pas guéri tous ceux qui étaient malades dans son temps. Jésus n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il n'a pas guéri les gens, il n'a pas sauvé tout le monde. Pourquoi? Parce que l'affaire de Jésus, là, écoutez-moi bien. Jésus est venu pour aller à la croix, point. La croix était l'objectif de sa venue sur terre. Ça veut dire quoi? Dans tout ce qu'il faisait, la croix était au centre. Maintenant, sur son chemin pour aller à la croix, tous ceux qu'il a rencontrés, il les a guéris. Tout ce qui était sur son chemin, il leur a donné le salut. Mais à part ça, il n'a pas détourné son chemin pour aller ailleurs. Hein. Il a fait son travail dans la droite ligne de sa mission. Ceux qui se sont trouvés sur son chemin, c'est eux qu'il a guéri. Il n'est pas allé guérir quelqu'un qui était sur un autre chemin. Donc c'était à toi de te débrouiller pour te retrouver sur son chemin afin que, allant vers la croix, il te guérisse. Mais si tu l'appelais pour aller ailleurs, il n'allait pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Oui, c'est très important parce que les gens me disent, oui, non, Jésus aurait pu venir, aller à la croix, mourir et ressusciter sans guérir un seul malade et puis son œuvre aurait eu le même impact qu'il a aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit un jour ici, Jésus n'est pas mort pour que les gens n'aillent pas en enfer. Faut vous détromper. Jésus n'est pas mort pour que les gens soient guéris. Faut vous détromper. La raison réelle de la mort de Jésus, il faut la saisir. Parce que la preuve, les gens iront plein en enfer. Il y a des gens qui vont rester malades jusqu'à ces maladies qui vont les prendre pour partir. Alors que Jésus ne peut pas mourir pour quelque chose et la chose ne s'accomplit pas. Donc, ces choses-là sont des... On appelle ça... C'est un peu comme j'envoie Pasteur Nyeba. J'ai dit, bon, va à Paris. Il faut me rencontrer le Premier ministre ou bien Sarkozy. Maintenant, je donne hors de mission. Maintenant, dans l'ordre de mission, avec l'ambassade de France, on détermine l'itinéraire. On dit, tu vas à Paris pour 3 jours. Et les 3 jours-là, tu dois rencontrer Sarkozy. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va arriver à Paris, il descend. Protocole d'État, tout. On voit l'aide de mission, ainsi de suite. On le conduit. Nyeba habite, par exemple, à leur truc Lafayette, là. C'est quoi ça? Hôtel. C'est le patron. Le patron, c'est quel ou c'est où? Il y a un hôtel bien, Fayette, que chose, Galé. Comment la madame? C'est hôtel, non? Non, moi j'ai vu, je sais que c'est la Fayette, c'est les ministres qui vont là-bas. Concorde, là. Merci. Les patrons là, ils ne parlent pas parce qu'ils sont très discrets, c'est comme ça ils sont. Concorde Lafayette. Maintenant, on dépose le pasteur à Concorde Lafayette. Il doit voir le président. Maintenant, sur son chemin d'aller voir le président, s'il va faire shopping en bas, il y a un magasin en bas, est-ce que c'est sa mission? Non. Mais comme le magasin est sur son chemin, il a fait son shopping. Mais si quelqu'un vient dire à Pasteur Nyeba, écoute, demain matin, est-ce que je peux venir te prendre? On va aller à Neuilly-sur-Marne ou bien aller à Boissy-Saint-Léger, au loin là-bas, pour faire. Il va te dire, non, je ne peux pas aller à Boissy maintenant parce que je dois voir le président. Vous comprenez? Donc, sur son chemin d'aller voir le président, s'il a trouvé quelqu'un, il le salue. S'il a trouvé quelqu'un, il parle avec lui. S'il peut appeler un frère, il parle avec le frère. Mais il est sur le chemin de sa mission. Pour accomplir sa mission. S'il sort dans le cadre de sa mission, s'il y a un problème, il n'est plus protégé par l'État de Côte d'Ivoire ou bien l'État français qu'il a accepté dans le pays. Vous comprenez? C'est la même chose. Maintenant, s'il finit sa mission et qu'il traîne encore à Paris, là, quelque chose arrive, c'est plus nous. Alléluia. Oui, c'est la même chose. Jésus est venu pour aller à la croix. L'ordre de mission, c'était mourir et puis ressuscité pour que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi, à un moment donné, quand il a destitué les Juifs, les Juifs ont failli le lapider. Jésus s'est caché, il est parti doucement. Mais pourquoi Jésus fuit des gens qui prennent des pierres? Pas parce que Jésus a peur d'eux. Il levait le doigt, tout le monde était à terre. Mais il a fui parce qu'en réalité, il est dans une mission. Il n'est pas venu pour faire parler avec des gens qui prennent des pierres. Il n'est pas venu pour qu'on le tue avec des pierres. Non, il faut comprendre les choses. Dans le cheminement ou dans la mission que Dieu a assignée à ta vie, il y a des combats inutiles. Il ne faut pas aller te mettre dedans. Il y a des gens, ils pour rien, ils disent qu'ils veulent sauver leur village. Qui t'a dit d'aller sauver ton village? Non, mais souvent je parle à un certain chrétien, pasteur, je veux sauver mon village. Ok, si c'est Dieu qui t'a dit, ok, mais tu vas aller sauver ton village. Tu vas là-bas, les sorciers vont te fâcher, mon frère. Si tu n'es pas fort, tu vas voir, tu vas revenir à être des dégâts partout. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, il faut partir. Jésus-Christ est Seigneur, mais sa force et sa capacité travaillent strictement dans le cadre de la mission qu'il a assignée à ta vie. Et un homme qui ne saisit pas le cadre de la mission que Dieu a assignée à sa vie, est-ce que vous savez que voilà l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes meurent de façon prématurée? Est-ce que vous savez ça? Parce que la main de Dieu, c'est-à-dire, ne peut pas te secourir en dehors du cadre qu'il a assigné à ta vie. Et je vous ai dit ici, lorsqu'on parlait de quoi? Assujettir. Dans le dernier volet de Destinée à régner, j'ai dit quoi? J'ai dit que chaque être humain a un champ d'activité, un champ où sa vie est destinée à s'exprimer. Ce champ-là n'est pas physique ou n'est pas géographique dans le sens où il peut être sur plusieurs endroits ou plusieurs continents en même temps. Donc, on peut définir ce champ-là comme un champ qui est spatial. Alléluia. Mais dans ce champ-là, s'il perd le contrôle dans ce champ-là, il peut perdre sa vie. C'est pourquoi j'ai parlé d'avoir le contrôle sur son champ d'action. Alléluia. C'est important. Quand tu sors de ton champ d'action, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est pourquoi ne pas savoir réellement ce que tu as à faire, les objectifs que Dieu a assignés à ta vie, c'est dangereux pour toi. Tu vas t'engager dans quelque chose qui va finir avec toi. Parce que dans ça, tu n'as pas le potentiel pour avoir une vie avec objectif est très important. Troisième élément, c'est quoi? J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la loi de l'intégrité. J'ai dit qu'il n'y a pas de grandeur qui ne prend pas racine dans l'intégrité. Si quelqu'un te dit il veut devenir grand et puis piétine l'intégrité, c'est quelqu'un qui ne sera jamais. Parce que même les gens que vous connaissez aujourd'hui, qu'on appelle des hommes grands, ils sont intègres. Et j'ai dit que l'intégrité, ce n'est pas la sainteté. Ce n'est pas la perfection. Il y a une différence entre un homme intègre, parce que Dieu a dit de David, David, tu es un homme intègre. Mais on ne peut pas dire à David qu'il est intègre, alors que nous savons la vie de David. Alors l'intégrité, c'est quoi? Et nous avons défini que l'intégrité tient sur des valeurs. Alléluia. On a parlé de loyauté, on a parlé de fidélité, on a parlé de pureté. Mais quand je parle de pureté ici, je ne parle pas forcément de sainteté. La pureté, c'est l'entièreté. Quand Dieu dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », ça veut dire « Heureux ceux qui ont un cœur qui est entier ». Parce que quand je dis par exemple « Ça c'est du jus d'orange pur », je ne dis pas, je veux dire simplement que c'est du jus, c'est de l'orange et de l'orange unique. Il n'y a pas bissap dedans. Il n'y a pas valeur ajoutée, c'est orange pressé, orange pur. C'est du jus de pomme pur. Donc quand on parle de quelque chose de pur, quand on dit quelque chose est pur, on ne veut pas forcément dire la chose est sain, mais on veut dire que la chose est entière ou la chose est unique. Merci. Et Dieu s'attend à ce que vous ayez des cœurs purs. Ça veut dire, il peut arriver que tu commettes des erreurs, mais le fait de commettre une erreur ne t'enlève pas ton intégrité. Parce que si c'est ça, David ne peut pas être intègre, je ne suis pas d'accord. D'accord, dites amen. Et j'ai dit qu'un homme qui est intègre, c'est quoi? C'est un homme qui privilégie les principes aux émotions. Ça veut dire quoi? Quand on a lu l'histoire dans le psaume 70, il a dit quoi? Il a dit simplement que David a été mis dans les champs, David a été mis derrière les brebis, mais David a fait son travail et il fut trouvé intègre dans le travail qui lui a été confié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrité, un homme intègre, c'est par exemple quelqu'un, tu lui confies un travail. Tu n'es pas là, il a la possibilité de ne pas le faire ou de mal faire, mais il décide de bien le faire. Pourquoi? Parce qu'il tient compte du droit. Ça, c'est un homme intègre. Mais un homme qui fait bien, parce qu'on le regarde, n'est pas un homme forcément intègre. Et ce qui a joué ou qui a fait que Dieu a approuvé David, c'est que David a été fidèle dans les petites choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, c'est ce qui manque. Les hommes ne sont pas droits. Par exemple, un homme intègre, c'est un homme qui ne peut pas dire derrière toi ce qu'il ne peut pas dire devant toi. Parce que, écoute, il va se dire non. Non, je ne peux pas. Même quand les gens vont dire, il va dire non, je refuse. Parce que si on doit le dire, appelons-le. Moi, je ne peux pas. Ma conscience, ça dit qu'il tient compte du droit. Donc, l'intégrité tient compte du droit. Mais malheureusement, peu de gens tiennent compte du droit. Ils sont doubles. Ils n'ont pas un cœur qui est sincère. Ils rient avec toi, mais en fait, derrière toi, ce qu'ils peuvent te faire là, c'est trop grave. Ça, ce n'est pas de l'intégrité. Même si tu marches comme ça, tu as une jupe qui tombe jusqu'à tes pieds, qui balaie la route. Tu vas croire que tu es quelqu'un de bien parce que tu viens à l'église. Mais en fait, tu n'es pas un homme intègre. Donc j'ai parlé de loyauté, j'ai parlé de pureté. Et j'ai dit que l'intégrité tient à un certain nombre de points. Un homme qui est intègre est un homme qui n'a pas un esprit indépendant dans un système. Par exemple, tu ne peux pas être dans une famille, il y a des principes, ou bien dans un groupe avec des principes et des lois, et toi décider de faire ce que tu veux, tu n'es pas intègre. Parce que dès qu'on décide ensemble de dire, on va faire comme ça, nous sommes dans le groupe, et voilà les principes qui s'attachent au groupe, tu es sous obligation de respecter, de soumettre ta vie à la vie de l'ensemble. Si tu fais ce que tu veux, tu n'es pas intègre. Donc on ne peut pas avoir un esprit indépendant dans un groupe. C'est la même chose pour une église. Tu ne peux pas faire partie d'une communauté qui est un ensemble, qui est un corps, et vivre comme tu veux. Tu as un droit, j'ai le droit, je cherche le mot, c'est-à-dire, j'ai le devoir ou le droit de te demander des comptes, comme toi également, tu as le droit ou le devoir de me demander des comptes. Par exemple, si tu apprends tout de suite que, j'ai vu le pasteur, on a vu le pasteur Amazou à la rue Princesse, tu ne peux pas être content. Et tu vas dire, non, mais pourquoi il fait ça? Ah oui, les pasteurs, c'est comme ça. Mais si tu peux t'autoriser de me demander des comptes, alors moi également, j'ai le droit de te demander des comptes. Sinon, il n'y a pas d'intégrité. Ah non, c'est ma vie. Ça ne peut pas être ta vie. Si tu as décidé d'être enfant de Dieu et de t'inscrire dans un ensemble parce que c'est ce que la Bible te demande, alors tu dois soumettre ta vie aux règles de l'ensemble. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà une église et voilà ce qui fait l'intégrité. Donc, on ne peut pas avoir un esprit indépendant dans un ensemble ou dans un groupe. Si tu veux avoir un esprit indépendant, alors soustrais-toi de tout. Et là, tu as ton esprit indépendant. Toi seul, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Pas de problème. Mais tu ne peux pas être dans un ensemble et vivre comme tu veux. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. Parce que nous sommes un corps. Et l'église est un organisme. Organisme, ça veut dire quoi? C'est quelque chose de vivant. Et un organisme, je suis là, ça c'est mon organisme, ça veut dire quoi? Tous les membres travaillent pour le bien-être de l'organisme. Donc si l'église est un organisme et que vous êtes membre de cette église, alors dans toutes les positions dans lesquelles Dieu vous met, cela vise à rendre l'organisme meilleur. Maintenant, écoutez quelque chose que j'ai de te dire qui va te choquer. Si tu ne peux pas être membre d'une église locale, tu ne seras pas membre de l'église universelle. Je dis, si tu ne peux pas être membre d'une église locale, tu ne seras pas membre de l'église universelle. Ça dit du corps. Parce que beaucoup de gens disent, oui, moi je suis chrétien. Non, il ne s'agit pas d'être chrétien. Tu ne peux pas être chrétien. Amen. J'ai dit, l'intégrité tient également à quoi? Tient à un cœur qui est basé sur Dieu. C'est-à-dire un cœur où Dieu seul est le maître, le chef, le consommateur de la foi, l'initiateur, le consommateur. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qui arrive à ta vie, quels que soient les revers, quels que soient les défis que tu as, Dieu doit être au commencement et à la fin. Parce que dans tous les cas de figure, s'il ne décide pas de t'aider, tu vas faire quoi? Réponds-moi ce matin. Quand Dieu nous appelle à avoir une pleine confiance en lui, c'est important, hein? Regarde, je cite toujours l'histoire des trois enfants hébreux parce que c'est impressionnant cette histoire. Ils disent au roi, dans tous les cas, nous là on fait confiance à notre Dieu. On a la foi qui va nous délivrer. On ne fera pas ce que tu nous demandes. Mais dans tous les cas, même si il ne le fait pas, nous on ne te suit pas parce qu'on a décidé de ne pas te suivre. Donc vous allez voir qu'il y a deux éléments importants ici qu'il faut saisir. Ils ont exprimé d'abord leur foi. Leur foi en ce qu'ils connaissent Dieu, Dieu va les délivrer. Mais après, ils se sont rendus compte que Dieu est souverain. Mais si dans tous les cas, Dieu ne les délivre pas et que Dieu n'honore pas leur foi, eux, ils ont pris une décision de ne pas faire. Ça veut dire quoi? Dans la vie, à un moment donné dans ta marche avec Dieu, ta foi ne sera pas suffisante. Si tu ne décides pas réellement. Parce que Dieu peut choisir à un moment donné de ne pas faire ce que tu veux. Mais si à la base de ta foi, il n'y a pas une véritable décision qui est personnelle, parce que ce qui a fait qu'ils ont tenu, c'est pas... Parce qu'à un moment donné, ils ont dit leur foi, Dieu va le faire. Et puis ils se sont rendus compte que dans tous les cas, Dieu peut ne pas le faire. Là, ils auraient pu changer d'avis. Parce que la foi est basée sur Dieu. Dieu ne le fait plus. Maintenant, ce n'est pas grave. Même s'il ne fait pas, nous, on a pris une décision. Et comme la décision a un pouvoir, ou les choix ont un pouvoir, moi, je reste, nous, on reste dans notre choix. Si on doit mourir, on meurt. C'est pourquoi votre attachement à Dieu à un moment donné ne doit pas être lié à quoi que ce soit. À un exaucement, à un bébé que tu cherches, à un quoi que ce soit. Non, parce que si tu restes dans ça, dans cette optique-là, tu vas être déçu. Parce que tu sais, Dieu, c'est un homme d'affaires. C'est sérieux. Ça dit, Dieu poursuit des intérêts permanents. Dieu n'a pas d'amis permanents, mais poursuit des intérêts permanents. Ça veut dire quoi? Quand tu fais son affaire, tu es son ami. Le jour où tu ne fais plus son affaire, il peut te mettre à côté. Non, lisez la Bible. Ne croyez pas que Dieu va être là pour vous pour toujours. Parce qu'il a des intérêts qu'il poursuit. Il poursuit des intérêts. Donc votre marche avec Dieu va être une marche qui est basée non pas sur le fait que j'attends ça de Dieu parce qu'il a fait. Dieu le fera, certes, pour encourager votre foi, pour vous bénir. Mais si Dieu apprécie et voit que le temps n'est pas à faire ce que tu demandes là, il ne le fera pas. Ça, c'est son droit. Dieu ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce qu'il veut. Tu as le droit de demander ce que tu veux. Ça, personne ne va te dire non. Mais lui, il a le droit de répondre comme il veut. C'est important. Et quand les chrétiens arrivent à ce niveau de compréhension, où leur foi est totale en Dieu, et cette confiance qu'ils ont en Dieu là ne dépend de rien du tout, ils sont sur la bonne voie. Ça veut dire quoi? On ne peut pas te décourager. Ta communion avec Dieu ne dépend pas du fait que je suis venu à l'église, je demande le même truc, Dieu ne me donne pas. Je demande ça, Dieu ne me donne pas. J'ai fait ça, Dieu ne me donne pas. Non, tu aimes Dieu pour ce qu'il est. Amen. Tu es avec Dieu parce que tu as décidé d'être avec lui et personne ne peut t'enlever ça. Et quand tu arrives à ce point-là, Dieu traite avec toi facilement. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Nous continuons. Quatrième élément ce matin. Alléluia. Quatrième loi importante pour arriver au sommet de sa vie. C'est ce que j'appelle la loi de l'utilité. Est-ce qu'on peut dire avec moi la loi de l'utilité? Lisons Proverbe 14, verset 23. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Proverbe 14, 23. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Je vais aller vite. Oui, vas-y.
Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance.
Tout travail procure l'abondance, oui.
Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette.
Il y a tellement de paroles en l'air dans nos églises. Tu sais, les gens, je vais t'expliquer. Au nom de Jésus, je suis prospère, je suis en tête. C'est bon. Mais, allons-y. Vas-y, 2 Thessaloniciens 3, verset 10.
2 Thessaloniciens 3, verset 10. Le Seigneur... Non, amen. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Maintenant, Matthieu 25, vous connaissez l'histoire de cette parabole-là, on l'a utilisé déjà dans un certain nombre de thèmes. Nous allons voir également un autre point ou une autre facette de cette parabole dans Matthieu 25, 26, 27. Matthieu Alléluia. 25, lis-moi le 27 au 30.
Du 27 au 30. Amen. Matthieu 25, 27, 30. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Amen. Merci. Cette loi que j'appelle la loi de l'utilité, ou éventuellement la loi du travail, quel est son rôle? Cette loi, quand on étudie cette loi, on se rend compte de quelque chose de très important. C'est que cette loi contrôle ce que j'appelle la distribution des richesses. La loi de l'utilité contrôle la distribution des richesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai compris une chose. Je vous assure, ce matin, je veux parler avec toi, je veux qu'on discute. C'est que si l'Église ne revient pas à cette vertu essentielle ou à cette loi que j'appelle la loi de l'utilité, cette Église va rester dans cette foi dogmatique au lieu d'arriver à cette foi responsable. Parce que quand on va évoluer dans les études, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de choses que les gens font dans nos églises évangéliques qui n'ont rien de biblique, qui ont tout des sectes. Parce que tout est un dogmatique, tout est... Alors que quand on lit la Bible et on observe les paroles de Jésus, on se rend compte que le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois un chrétien qui croit pour croire, mais un chrétien qui croit, mais une foi qui est responsable, une foi qui est basée sur les Écritures, mais une foi qui est sensée. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que c'est que la loi de l'utilité? Lorsqu'on lit la Bible, par exemple, dans le passage que nous venons de lire dans Matthieu, il dit quoi? On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera le peu qu'il a. Ça, c'est ça la loi de l'utilité, la loi du travail. Ça veut dire quoi? À celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera le peu qu'il a. Et j'ai expliqué ici que il y a une différence entre ce que tu as et ce que tu n'as pas. Parce qu'il y a des choses que tu as et il y a des choses que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est ce que Dieu t'a donné. Ça ne t'appartient pas. Et en général, la Bible déclare que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Ce que nous avons à la base, c'est Dieu qui nous donne. Maintenant, c'est la valeur ajoutée qui nous appartient. Dites amen. Mais cette valeur ajoutée vient par le travail. Tout le monde dit avec moi le travail. Là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais il n'y a pas également une contradiction entre travailler et exercer sa foi. Parce que la Bible dit la foi, ce sont les actes. Si tu crois que Dieu t'a prospéré, si tu crois que Dieu t'a béni, alors prouve-moi cela par ton travail. Quand tu regardes aujourd'hui, les chrétiens, ils sont paresseux. Mais la seule chose qui va imposer l'Église au monde, qui va révéler l'Église et qui va donner à l'Église d'avoir un impact réel, c'est le travail. Est-ce qu'on peut dire avec moi le travail? Il n'y a pas de grandeur sans travail. Tous ceux qui ont atteint ce niveau de grandeur et qui sont respectés sont des bosseurs. Ce ne sont pas des paresseux. Dis à ton frère à côté, réveille-toi. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas travailler. Tu leur confies quelque chose parce qu'il est un frère en Christ, il va tout mélanger. Ça fait qu'aujourd'hui, dans l'église, les personnalités qui ont un certain niveau ont du mal, même quand ils ont des contrats dans leur société, des choses, à confier aux frères dans l'église. Pourquoi? Tu as donné ça à un frère, il va venir, au lieu de venir à 8h, il va venir à 9h, et quand il arrive là, il va prendre le temps de lire sa Bible et prier pendant 45 minutes. Quand il a fini, il est déjà vers, il est 10h, 11h, et il va travailler un tout petit peu, on va l'appeler pour dire, à 16h, il y a prié à l'église. Il va quitter le bureau. Non, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen?
On parle, il dit non, on ne comprend pas, c'est des charnels. Ce n'est pas des charnels. Le travail est une vertu biblique. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen?
Parce que lorsqu'on prend la Bible, par exemple, et qu'on va à l'origine, prenons la Bible et allons à l'origine dans Genèse 2. Alléluia. Genèse 2, versets 4 et 6, qu'est-ce qui est dit?
Voici les origines des cieux et de la terre.
Oui.
Quand ils furent créés,
mm-hmm.
lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux,
mm-hmm.
aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre.
Oui.
Et aucune herbe des champs ne germait encore.
Mm-hmm.
Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol.
Amen.
Et
regardez ce qu'il dit. Il dit, car il n'y avait point d'homme pour cultiver. Il n'y avait rien sur la terre, rien ne se passait de bon, car il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Va au verset 15.
Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Il prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le quoi? Pour le cultiver et le garder. Merci. C'est-à-dire, Dieu a pris l'homme au départ. Il a placé l'homme dans le jardin pour quoi? Pour le garder et le cultiver. Est-ce qu'on peut dire cultiver? Cultiver, ce n'est pas dormir. On dit, ah, le travail est une malédiction. Beaucoup de pasteurs, bien sûr, on dit ça aux gens, donc ça fait que quand tu travailles trop, on dit tu es charnel. Non, non, ce n'est pas charnel. Le travail est une vertu biblique. Au commencement, quand Dieu est venu vers l'homme, Dieu a donné du travail à l'homme d'abord avant de lui donner une femme. Amen. Dis amen.
Amen.
Le travail était avant même mariage. Tout le monde dit mariage et la volonté. Mariage, 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 mariage. Tout le monde veut se marier. Mais personne n'a envie de travailler. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui, frère. Si les chrétiens travaillent, se positionnent, ont un certain niveau dans la société et occupent des postes de responsabilité, est-ce que ce n'est pas l'Église qui gagne? C'est l'Église qui gagne. Des chrétiens ministres, entrepreneurs, directeurs dans leur domaine, c'est-à-dire des experts, des gens même, c'est-à-dire dans la nation ivoire, on ne peut rien faire sans te consulter. Pourquoi ça, ça n'est pas une ambition pour toi? Pour que, devenant indispensable, c'est-à-dire est au centre des intérêts du pays, que Jésus-Christ de Nazareth soit avec toi et tous ceux qui viennent à toi le rencontrent avant de te rencontrer. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est important? Est-ce que ce n'est pas important, frère? C'est important. Il faut travailler. Le travail est la volonté de Dieu. Au commencement, Dieu a donné du travail à l'homme. Il dit, garde le jardin et cultive le jardin. Travaille, cultive, cultive. Adam est un cultivateur. Donc le travail ne peut pas être une malédiction dans le sens où, au commencement, Dieu lui m'a donné du travail. Frères et sœurs, Dieu vous a donné la possibilité d'être des administrateurs, des médecins, des pharmaciens. Ce n'est pas pour rester dans une position de second. C'est pour jouer le premier rôle. Dites amen.
Amen.
Mais c'est votre travail qui va vous positionner. Parce que là où les gens font souvent l'erreur, c'est qu'ils comptent sur les relations. Ils comptent sur un parti qui va venir au pouvoir. Et comme ils sont dans de bons termes avec ce parti-là, alors quelqu'un va les appeler et va les mettre au pouvoir. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont occupé des postes dans ce pays. Ils ne connaissent ni le président, ni d'Adam, ni d'Ève. Ou bien ils ne connaissent personne. Mais ils sont compétents et leur compétence les a imposés. Voilà ce que Dieu demande de vous. C'est pourquoi au lieu de passer le temps à faire des calculs, il est important de travailler. Tout le monde dit travail. Ça veut dire quoi? Même là où tu es dans la fonction publique, partout où vous êtes, il faut être intègre dans ton travail. Continue à travailler. Là où personne ne te voit, toi, va à 8h, finis à 18h. Ce que les autres font, on ne fait pas comme eux. Alléluia, parce que c'est la fonction publique, c'est comme ça tout le monde est. Non, ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'un jour viendra où Dieu va regarder à ton intégrité. Et cette intégrité va te donner une position. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire fort amen? Alléluia. C'est important de travailler. Les chrétiens n'aiment pas travailler. Et donc, comme il n'aime pas travailler, il se cache derrière la foi. Dieu peut tout faire. Ils sont assis à la maison et disent, au nom de Jésus, Dieu va faire un miracle. Quelqu'un est venu frapper à ma porte pour dire, je cherche une secrétaire de direction. Dieu m'a conduit vers cette porte. Frère, ce temps est révolu. Tu attends ça? Tu vas attendre longtemps. Ils ne veulent faire aucun effort. Quand tu vois un chrétien qui a un petit diplôme terminé, aller à l'école pour augmenter sa capacité ou augmenter son niveau ou ses chances d'être, comment on appelle là, quelqu'un d'important demain, il ne veut pas. La foi n'est pas, il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et le travail. Jésus était un travailleur. La Bible dit Jésus qui se couchait tard et se levait tôt le matin. Quelqu'un qui était tout le temps en train de parcourir des chemins. Un long chemin pour faire quoi? Pour faire son travail. Je dois faire le travail que Dieu m'a donné pendant qu'il est jour. Mais aujourd'hui, tu n'es ni bon dans les affaires du Seigneur, ni bon dans les affaires du monde. Tu es bon où? Dans bavardé. Spécialiste. Commentaire composé. Il va te faire ça tout de suite. Commence introduction, milieu et puis fini. Conclusion. Il va falloir que tu sois bon quelque part. Hein? Il va falloir que tu sois bon quelque part. Parce que tu ne peux pas être dans l'église. On dit on a été conçu un temple. On a besoin d'argent pour bâtir le temple. Non seulement tu es frustré. Parce que ce que tu gagnes n'est même pas capable de te faire terminer le mois. Donc à chaque fois qu'on parle d'argent, tu as l'impression qu'on te vise. Donc tu vois, la misère réécrit. Mais c'est vrai. Tu vois que quelqu'un qui a l'argent, il n'est pas aigri. Non, un pauvre. Non, regardez bien, analysez les pauvres. J'ai dit, on va faire un enseignement sur la mentalité de pauvre. Tu vois que analysez les pauvres. Les pauvres, ils sont très facilement frustrés. Mais pourquoi? Parce que tout ce que tu dis, il pense que tu veux l'insulter. Tu veux dire qu'il est pauvre. Mais quelqu'un qui est posé, quelqu'un que Dieu a béni, frère, on ne le dérange pas comme ça. Alléluia! Donc on parle, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas soutenir l'œuvre, tu ne peux pas participer à la constitution. Et puis dans l'église également, ton niveau de consécration n'est même pas au point. Il y a problème. Tout ce que tu fais est à moitié. Tu démarres ça, tu ne termines pas. Tu démarres ça, tu ne termines pas. Toutes tes affaires sont moitié, 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 moitié. Esprit de non-accomplissement. Tu démarres ça, arrivé au milieu, tu restes. Sois un travailleur. Dis à ton frère, sois un bosseur. Si nous devons changer le monde, Église de Jésus, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On doit travailler. Là où Dieu t'a positionné, sois le meilleur. Démarre des activités. Tu me dis, pasteur, je ne sais pas qui va financer mes activités. Pasteur, souvent les gens viennent me voir, je ris, ça me fait rire. Ils disent, pasteur, on est tous ici, on est des frères. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont beaucoup de biens. Pourquoi ils ne nous donnent pas du travail? Ils ne trouvent pas ça pour nous. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Parce que je dis, mais mon frère, ce que tu dis n'est pas vrai. Quelle preuve tu as fait? Dis-nous, tu as fait quoi? Et puis, il y a des gens, ils ont pris ici. On a recommandé certains frères ici, ils ont gâté notre nom. Non, ils ont gâté notre nom. Ils ne travaillent pas, c'est des paresseux. C'est des gens, tu leur donnes un contrat, ils vont mélanger, tu vas mettre, après quand ils vont tout mélanger, ils disent c'est mon frère en Christ, c'est pas grave, on va s'arranger. C'est pas une affaire de frère en Christ. Frère, ici là, il ne s'agit pas de frère en Christ, c'est le travail pour glorifier le nom du Seigneur. Et il y a des gens qui ne jouent pas avec leur boulot. Il faut travailler. Il faut vous battre. Il y a des gens qui ont des diplômes ici, ils ont licence. Mais aller prendre leur dossier, déposer dans un collège ou dans un lycée pour enseigner, ils ne peuvent pas. Dieu n'a qu'à leur donner travail dans bureau, il est assis, il est patron, il est directeur général. On commence quelque part. Tu te connais? Alléluia. Tout le monde dit avec moi le travail. C'est important. Alléluia. Lisons Exode 25, verset 9. Alléluia.
Exode 25, verset 9. Mm-hmm. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
D'après le modèle que je vais te montrer. Quel est le modèle? Le modèle. Et c'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Quel est le modèle? Le modèle du chrétien selon Dieu. Quel est le modèle que Dieu nous montre aujourd'hui? Quel est le modèle? Le modèle, c'est ça. C'est-à-dire faire de nous des croyants qui avons une foi ferme dans la parole. Mais la foi, ce n'est pas seulement venir crier, chanter, danser. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils. La manifestation, votre manifestation. Mais comment vas-tu, toi, assis, te manifester pour que le monde te voie? Comment? Dis-moi aujourd'hui. Est-ce que c'est en prenant une grosse Bible? En venant dire, je crois en Dieu. Je suis un évangélique. La preuve. C'est ça qui prouve que je suis un chrétien. Et puis, j'appartiens à cette église, tel est mon pasteur. Non, qu'est-ce qui va faire ta manifestation? Qu'est-ce qui va faire ta manifestation? Il y a cette foi ferme que tu as dans ton Dieu, ce sérieux que tu as dans la pratique du christianisme et de ta vie chrétienne. Tout le monde dit avec moi le sérieux. C'est-à-dire cet engagement, mais à côté de cet engagement-là, comme tu n'es pas seulement esprit, mais que tu es esprit, âme et corps, alors il y a le travail. Tout le monde dit avec moi le travail. Le travail. Parce que les convertis, là, pour qu'ils t'identifient, ils veulent d'abord voir dans ta vie des signes. Et quels sont ces signes-là? Waouh, cet homme-là a réussi. Ou il est en train de réussir. Et pour eux, la réussite et le succès, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand les choses vont bien pour toi, tes activités marchent, tu fais des affaires, ça prospère et tu es béni, bien sûr. Parce que tu apportes des solutions, on te paye et ta vie est meilleure. Ils te voient, ta voiture a changé, tu n'es pas dans les histoires de France au revoir. Hein? Toute ta vie, tu n'as jamais eu une voiture neuve depuis que tu es né. Tout est France au revoir. Mais ils voient qu'il y a quelque chose qui est différent avec toi. Et donc, maintenant, quand ils s'approchent pour voir, ils se rendent compte qu'attaché à ce succès matériel, il y a un fondement qui est Dieu. Un fondement qui est Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Mais si tu es un vaurien dans la vie, ils ne prendront même pas le temps d'écouter le Dieu que tu sers. Mon frère, tu sais, tu n'auras aucun impact ou ton Dieu là n'aura aucune voix dans la vie de quelqu'un si ton Dieu là n'est pas capable de te sauver. Ce n'est pas moi qui va sauver. C'est pourquoi le travail est important. Dieu a donné le travail à Adam avant le mariage. Tu ne peux pas. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne marie jamais quelqu'un qui ne travaille pas. Hein? Ce n'est pas une affaire de foi. Non, je vous dis, ce n'est pas une affaire de foi. Il ne faut pas venir me voir ici dire par la foi. La foi, ça veut dire quoi? Par la foi, je vais me marier, ça va aller. Par la foi, ça veut dire quoi? Marie pas. Il faut trouver du travail. Parce que tu vas prendre l'enfant des gens là, il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle dorme, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent dans sa vie. Alléluia. Tu ne vas pas rester là par ta foi et puis tu cibles un frère. Mon frère, aujourd'hui on n'a pas payé les comprimés. Voilà 50 000 francs. Après tu cibles, tu finis par devenir un mendiant professionnel à force d'exercer ta foi. La vie chrétienne c'est un équilibre. Même un pasteur, il faut travailler, il faut étudier, il faut aller lire. Il faut un pasteur normalement ou un frère qui aspire à la grandeur est quelqu'un qui doit, par exemple, chaque mois aller dans une librairie, acheter un livre, acheter des CD. C'est-à-dire, pour savoir si toi tu es sérieux, il faut évaluer tes dépenses, les dépenses que tu fais dans les affaires du Seigneur pour ton instruction. Par rapport à ce que tu payes pour, même si tes cheveux, si ici rouge, ici vert, quand tu évalues et puis tu pèses là, tu verras toi-même. Si tu arrives d'aller dans les librairies, dis non, ce CD m'intéresse, cette prédication m'intéresse. Et prends la prédication, étudie la prédication, ou bien dans ton domaine d'activité, voir quelqu'un qui a réussi là, utiliser sa biographie et puis saisir le secret qui a aidé cette personne à devenir comme il est. Combien de personnes? Non! Dès qu'on atteint certain niveau, les Africains n'avancent pas beaucoup. Je te dis, ce qui m'a beaucoup étonné aux États-Unis ou en Europe, c'est que les gens apprennent même jusqu'à Dieu. Mais un Africain, dès qu'il est devenu chef d'entreprise, c'est fini. La seule chose qu'il lit, c'est les journaux. Non. Ou bien on n'est pas ensemble. Quand il se lève matin, il met RFI. Il écoute les musica, il remplit ses idées de plein de choses. Après, quand il va au bureau, il a les journaux la conseillent, c'est 10. Il a tout, il fouille ici, il fouille là, il fouille là, il fouille là, il fouille là. Et puis quand il est complètement intoxiqué, et puis maintenant, commence à se plaindre seul. Oui, on ne comprend pas ce pays. Ce pays va mourir. C'est ce qu'un homme sème qu'il. Tu vois que très souvent, les gens qui sont très, très perturbés là, c'est les journaux qui les perturbent. Mais tu es rare, tu as venu voir un livre de Martin Luther King, un livre de, par exemple, quelqu'un qui a réussi dans un domaine. Et lui, comme il est homme d'affaires, il veut voir comment la personne a fait. Et puis il lit, il étudie. Les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas travailler. Ou bien il est leader, mais il va à l'école, à l'université, parce qu'il est devenu chef d'entreprise, parce que Dieu lui a fait grâce. Mais il s'est rendu compte que pour passer un certain niveau, il faut apprendre le management. Et donc, il retourne à l'université pour aller apprendre avec le petit gars là, un vieux management. Pourquoi? Parce qu'il veut bien manager sa structure pour passer à un certain niveau. Il n'y a pas beaucoup. Il va s'asseoir là, il va dire, je suis le chef. Toi, viens ici, le comptable. Le bon là, tu fais. Bon, le truc, je signe ça quand je reviens du village, ok? Il n'a pas envie d'avancer. Ça fait que, c'est-à-dire, tout est archaïque. Et les chrétiens sont là, ils confessent Jésus pour toujours, ils confessent, confessent. Allez voir les inconvertis. Allez chez les païens qui réussissent à la tête des multinationales. Vous allez voir, c'est des travailleurs fous. Ils sont au boulot, ils bossent. Ils ne mangent même pas à midi. Ils ne mangent pas à midi. Voilà pourquoi souvent, quand tu leur demandes leur argent, ils ne veulent pas te donner. Parce qu'un vrai travailleur, il ne donne pas son argent n'importe comment pour qu'on gaspille. Parce que l'argent, c'est sa vie. Mais c'est un voleur qui partage beaucoup d'argent. Non. Même s'il doit te donner, il va te faire quelque chose. Et puis il te donne. Pour montrer que on souffre. L'argent là, ça ne tombe pas des arbres. Mais que tout le monde dit le travail. Est-ce que tu es prêt à travailler? Est-ce que tu es prêt à travailler? Alléluia. Alléluia. Nos églises sont remplies de trop de paresseux. Défi, il faut te défier. Il faut que les chrétiens aujourd'hui se défient eux-mêmes et élèvent leur niveau de compétence. C'est-à-dire, il faut te lancer des défis qui vont, comment on appelle ça, stretch. C'est-à-dire, qui vont étirer ton potentiel. Il faut te lancer des défis. Il y a des choses que tu peux faire, tu ne peux même pas imaginer que tu peux faire. Commence à te lever tôt et à travailler, à faire des choses que tu ne croyais pas que tu pouvais faire. J'ai dit, tu as fini patron de ta société. Je te dis, tu as fini, patron. Dis amen. Lance-toi des défis pour étendre ta capacité. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. La seule chose qui est capable de sortir ce qu'il y a en toi, c'est le travail. Tant que ce potentiel que Dieu t'a donné n'est pas confronté à un boulot ou à quelque chose, ce potentiel va rester potentiel. Il y a des gens, ils sont caissiers, ils finissent directeur général de la banque. Tu es caissier, va à l'école. Fais cours du soir. Fais finance. Un matin, tu seras le directeur de la banque. Tu diras aux gens, j'étais caissier. Alléluia. Ne prends pas de raccourcis. Parce que les raccourcis font une chose que tu ne sais pas. C'est que le raccourci te dépouille. Le raccourci atrophie ton potentiel. Un homme qui aime prendre les raccourcis est un homme qui n'a pas la capacité de réaliser son potentiel. Et c'est pourquoi tu vas voir que quelqu'un qui n'aime pas travailler et qui aime prendre des raccourcis, il ne sera pas fort. Hein? Parce que c'est face au travail qu'on développe son potentiel et sa capacité. Voilà pourquoi on a beaucoup de chrétiens faibles. Tu leur donnes quelque chose, ils disent, ah, ça on avait vu à l'école. Et puis ils cherchent. Ils cherchent quelqu'un pour faire ça pour eux. Cinquième loi importante, c'est ce que j'appelle la loi de la persévérance. Tout le monde dit avec moi la loi de la persévérance. Lis-moi Matthieu 7, versets 7 à 11. La loi de la persévérance. Tu veux devenir grand, tu dois être non seulement un bosseur, quelqu'un qui travaille, qui ne triche pas, mais quelqu'un qui est persévérant. Tout le monde dit avec moi persévérance. Lis-moi Matthieu 7, versets 7 à 11.
À partir du verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
On va s'arrêter là. Amen. Lis-moi le verset, Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12.
Matthieu 11,
verset 12.
Verset 12, amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des dieux est devenu forcé, frère. Le succès ne vient pas par hasard. Pour réussir et devenir modèle dans cette société-là, il y a un prix à payer. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu seras ordinaire. Comme l'essence ordinaire. La persévérance. Alléluia. Comment je peux vous caricaturer cette loi de la persévérance? Ouais, c'est un peu comme un poussin. Vous voyez les poussins là. Quand la mère donne, la poule pond les œufs. À un moment donné, elle couvre les œufs jusqu'à ce que les œufs arrivent à un point où les poussins maintenant commencent à être à l'étroit dans l'œuf. Mais n'oubliez pas que d'abord dans l'œuf, c'est le lieu de confort, le lieu d'habitation. Donc, à un moment donné, ton lieu de confort et d'habitation ne peut pas, si tu veux explorer le futur, continuer à être ton lieu de confort et d'habitation. Souvent, tu arrives à un point dans la vie où il va falloir accepter de déranger ton confort si tu veux aller de l'avant. Les hommes qui n'aiment pas trop le changement, qui sont trop, comment on appelle ça, qui sont conservateurs, sont des gens qui n'avancent pas trop dans la vie. Mais un homme qui veut changer, donc le poussin arrive à un point où il se rend compte que si je reste là, il n'y a pas d'avenir pour moi. Donc il fait quoi? Il commence à taper l'œuf avec son bec, doucement. Il est petit, donc il fait ça doucement. Il peut faire ça sur une période donnée. À un moment donné, il y a un trou qui sort, et puis il commence doucement à casser, à casser, à casser. Tu peux venir voir, le trou est là, hein, mais tu reviendras demain, il a élargi un peu. Ensuite, tu reviens, dans 3 jours, il a fini de tout casser et il sort. Donc, il persévère dans quoi? Dans le fait de picoter ou je ne sais pas de quoi, de taper avec son bec la coque jusqu'à ce que la coque se fende. Maintenant, très souvent, les scientifiques ont démontré que quand ce processus-là est enclenché et que toi, tu vas, tu casses rapidement la coque et tu fais sortir le poussin, il meurt avant quelques jours. Il meurt à l'adversité. Il meurt. Pourquoi? Il n'a plus le temps de se bâtir. Et malheureusement, beaucoup de gens, voulant prendre les raccourcis et ne tant pas patients, se sont détruits. Quand Dieu vous demande la persévérance, c'est pour vous construire. Dis à ton frère, c'est pour te construire. Donc cette loi est importante pour quelqu'un qui veut réussir et quelqu'un qui va réussir. Là où il n'y a pas de patience, là où il n'y a pas de persévérance. C'est pourquoi la Bible dit la persévérance à bien faire nous communique l'immortalité. Là où il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de force. Trop de gens sont pressés. Pressés de devenir grands, pressés de réussir, ils ne veulent pas faire leur classe. Ils sont pas patients. J'ai dit, le véritable secret d'un champion se trouve dans son histoire. Le véritable secret d'un champion se trouve dans son histoire. Ça veut dire quoi? Dans leur histoire, il y a quelque chose qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu peux les voir, va étudier leur histoire. Dites amen. Et si réellement tu es décider à aller loin. Parce que ce genre de message, ce n'est pas pour tout le monde. Mais Dieu me demande de le prêcher, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas venus regarder la lagune et briller. À Abidjan ici, là, ils vont prendre leur part. Je dis, ils vont prendre leur part. Et je prie que tu en fasses partie au nom de Jésus. Que dans ce pays, la part que Dieu t'a destinée, que tu puisses prendre au nom de Jésus. Que la parcelle de terre qui te revient, que Dieu, que personne ne puisse te le prendre. que la bénédiction, la hauteur que Dieu veut te donner dans cette nation, pour que tu sois un homme et une femme influente, que Dieu puisse te donner cette position. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire, dans votre quête de devenir grand, ne cherchez pas à devenir grand pour vous-même. Parce que si votre ambition c'est vous, alors vous n'allez pas aller loin. Mais si votre ambition c'est d'abord Dieu, vous allez aller trop loin. Parce que Dieu va vous communiquer des idées, va vous communiquer quelque chose qui va faire que il sera difficile à votre cœur d'être satisfait. Mais quand tu vois un homme qui est satisfait parce qu'il a 3 voitures, parce qu'il a 4 voitures, parce qu'il a une maison qui tient sur je ne sais pas combien de mètres carrés, parce qu'il a 3 à 4 terrains, c'est que cet homme, arrivé à un moment donné, il a perdu l'ambition de Dieu. Tu ne peux pas être satisfait et dire oui, toi au moins je mange. Il n'y a pas toi au moins tu manges. Est-ce que Dieu est content avec ce que tu es et ce que tu as? Non. Si Dieu n'est pas content, alors il va falloir pousser. C'est pourquoi moi je ne suis jamais satisfait. Frère, c'est que vous voyez là, d'autres pasteurs auraient pu être satisfaits. Tu as l'église. Bon, apparemment tout est là. Ça là me satisfait? Non. Jamais de la vie. Déjà le temple là même, je suis même plus satisfait. J'ai même pas encore fini déjà, je commence à être inquiet. Alléluia. Pour vous dire quoi? À un moment donné, quand tu as des ambitions pour Dieu, on ne peut pas satisfaire ton cœur, rien du tout. Tu deviens très profond. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme que tu veux satisfaire, c'est Dieu que tu veux satisfaire. Donc, tout ce que tu le fais pour pousser au maximum, pour aller loin. Et tu persévères, même quand les choses semblent difficiles, tu es patient. Frère, je dis, il n'y a pas quelqu'un qui arrive au sommet et qui n'a pas connu la disette, qui n'a pas connu les moments de découragement, les moments de difficulté. Ça n'existe pas. C'est pourquoi souvent, quand les choses semblent ne pas aller comme je veux, je bénis Dieu pour dire, Seigneur, je suis donc sur la bonne voie. Si tout allait très, 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 très bien tous les jours, j'aurais des raisons éventuellement de m'inquiéter. Mais ça veut dire que tu es en train de travailler. Le poussin va doucement. Et pendant qu'il va doucement, Dieu communique à sa vie de l'endurance et de la force pour les batailles futures. Il y a quelque chose. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté tu as. Je ne sais pas à quel point tu es arrivé où tu es découragé par la vie. Mais je suis venu te dire que Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Je dis Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Alléluia. Alléluia. Si apparemment tu as l'impression que tout le monde est contre toi, tu as passé des épreuves difficiles que un homme, il y a des gens qui sont passés là qui sont morts. Frère, tu sais, sorti d'une telle épreuve dans laquelle tu es passé là, ce n'est pas tout le monde qui tient dans de telles épreuves. Si tu es sorti, c'est parce que Dieu t'envoie quelque part. C'est parce que tu as une histoire que Dieu est en train de construire. Tu peux ne pas le savoir, mais je suis venu te dire que tu as une histoire. Dis, j'ai une histoire. Que Dieu est en train de construire. Alléluia. Les réveils que tu as. Tu sais, l'indice, quand un homme veut souvent savoir à quoi Dieu l'appelle, il faut regarder aux épreuves auxquelles tu es exposé. Quel genre d'épreuves? Quels sont les défis auxquels je fais face dans ma vie? Tu sauras ce que Dieu attend de toi et où Dieu t'envoie. Non, on n'a pas les mêmes défis. Dieu veut t'enseigner quelque chose pour les nations futures. Moi, je me rends compte de certaines choses dans lesquelles je suis passé il y a peut-être 5 ans ou 10 ans. Je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a fait passer là-bas. Si je n'étais pas passé là-bas, il y a des choses que je n'aurais pas pu faire aujourd'hui. La persévérance dans l'épreuve. Persévère. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je viens de te dire ce matin, persévère. Quelle que soit la nuit, le jour se lève toujours. Dis ça à ton frère. Quelle que soit la nuit, le jour se lève toujours. Et le jour est sur le point de se lever sur ta vie. Le jour est sur le point de se lever sur ta vie. Je dis, le jour est sur le point de se lever sur ta vie. Le jour. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu. Il dit, frappez. Il dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Quoi? Frappez, l'on vous ouvrira. Et quoi? Mais ce verset-là, quand vous l'étudiez bien, pour ceux qui comprennent le français, c'est un présent impératif ou un présent continu. Alléluia. Présent continu, ça veut dire quoi? Dans la traduction littérale, comment on peut reprendre ce verset? Continuez de demander et l'on vous donnera. Continuez de frapper. Continuez de chercher. Donc continuez. La notion de persévérance dans ce que tu recherches. Ce n'est pas parce que tu as 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, tu n'as pas un enfant, que tu vas lancer des ultimatums à Dieu. Tu vas te fâcher. Il y a des gens, on m'a rendu l'histoire d'une dame hier, 17 ans de mariage. J'ai dit 17 ans de mariage. Elle a tout fait. Elle est arrivée à un point, elle dit, Seigneur, dans tous les cas, je te fais confiance. C'est pour toi que je suis là. À la 17e année, Dieu, il apparaît toujours. Pour ceux qui persévèrent. Continuez de demander. Continuez de persévérer. À la 17e année, elle a eu jumeaux. Dieu a doublé. Garçon et puis fille. Voilà le Dieu que tu sers. Et Satan, sachant cela, communique l'impatience. Parce que dans l'impatience, on prend des raccourcis. Dans l'impatience, on s'expose à des risques. Mais Satan sait. Voilà une jeune soeur qui attend depuis, elle ne voit pas. Et puis dans l'impatience, n'importe qui vient, elle accepte, elle dit, bon, je te marie. Mais quand tu as marié là, demain, ce que tu ne sais pas, et je veux dire à toutes les sœurs, le mariage est la volonté de Dieu. Nous qui sommes dedans, nous sommes très heureux. Non, c'est sérieux. Elle est là. C'est pas bon. Mais ce que je dis, c'est que vous devez comprendre que, frère, il y a des moments d'épreuve. Mais des moments d'épreuve. Mais si tu es impatient parce que tu veux ça et ça maintenant, et que tu t'engages ou que tu renvoies tes standards à la baisse, parce que beaucoup de gens très souvent renvoient leurs standards à la baisse, ou ça dit les idées que Dieu leur a donné là, ils changent ça parce qu'ils sont pressés. Mais Satan le sait. Et puis tu choisis quelque chose qui n'est pas ça. Après tu souffres. Après tu as des problèmes. Parce que ce que Dieu t'a pas donné ne peut jamais satisfaire ton cœur. Je te dis, ce que Dieu ne t'a pas donné ne va jamais satisfaire ton cœur. À un moment donné, le conseil que je te donne, c'est de prendre une décision. De dire, je prends ma chose telle que c'est. J'assume la chose. C'est tout. Sinon, c'est fini. Voilà pourquoi il est dangereux de se tromper dans un certain nombre de choses. Dans la vie. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas être pressé. Il faut être persévérant. Il y a une force dans la persévérance. Il y a une récompense dans la persévérance. Moi, je regarde aujourd'hui beaucoup de gens ici. Ils sont persévérants. Persévérants dans le ministère. Persévérants dans le travail qu'ils font. On leur confie du boulot. Ils font. Ils sont là. Malgré tout, ils n'ont pas tout. Mais ils ne se plaignent pas pour dire, mais moi, je n'ai pas vu ça. On dit, il y a un prophète ici qui fait des miracles. Il est là-bas. Il dit, oui. Il paraît qu'il y a un prophète. Pourquoi il cherche un miracle? Mon frère, je te dis. Je l'ai dit ici. J'ai dit, Dieu ne remplit jamais le sein d'une autre femme à côté de la femme qui enfante. C'est la femme qui donne naissance à l'enfant. C'est elle qui a le sein rempli pour nourrir l'enfant. Ça veut dire quoi? Si Dieu doit te bénir, si Dieu doit te donner ce qu'il te faut pour accomplir ta destinée, il ne mettra pas ça dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas ton père. Il mettra ce qu'il te faut dans la bouche de celui qui est ton papa. Dieu n'est pas dans le désordre. Si ton père ne t'a pas béni, aucun pasteur ne peut te bénir. Non, lisez la Bible. Beaucoup de gens disent oui, mais dans tous les cas, je ne m'inquiète pas. Et puis un pasteur qui ne te connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, te bénit. Je déclare que ça marche pour toi. Alors que à la maison, le papa, déjà, tu en parles avec lui. On va voir si ça a marché. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi la bénédiction paternelle est importante. Que ce soit biologiquement, spirituellement. Et très souvent, vous allez voir que les plus gros rebelles dans les églises sont les gens qui sont maudits à la maison. Donc, tu ne verras jamais quelqu'un bien élevé à la maison, qui est obéissant à son père à la maison, qui crée problème à l'église. Non. Non. Quand tu vois quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité, qui fait ce qu'il veut, il est pire à la maison. Il a des problèmes avec son papa, sa maman, tout le monde, il mélange tout le monde. Donc, quand il vient à l'église, c'est la même. On est béni à la maison avant d'être béni à l'église. Dis amen. Alléluia. Quand tu lis Matthieu 11, verset 12, on l'a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit?
Depuis le temps de Jean-Baptiste,
on dit le
royaume
présent, de Dieu est
forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
Le mot violent ici, ce n'est pas forcément avoir une grande capacité. Hein. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui ont cette compréhension de faire l'accumulation de force. Parce que tu sais, dans la persévérance, il y a un pouvoir. Ce que tu fais une fois, au même rythme, qu'est-ce qui arrive? C'est un peu comme la loi de l'utilité. On donne à celui qui a. Ça veut dire quoi? Si je viens, je commence à faire musculature, je pompe une fois. Demain, je pompe une fois. Avant, je n'arrivais pas à faire 3 pompes. À force de pomper, je vais devenir plus fort, je vais faire 10. À force de faire 10, je vais faire 20. À force de faire 20, je vais faire quoi? C'est-à-dire ce que tu mets en valeur devient plus grand pour toi. Et l'un des gros problèmes de l'église ou des Africains en général, comme ils n'utilisent pas trop leur mentalité, c'est pourquoi ils sont mentalement faibles par rapport aux Européens. Si les Africains commencent à beaucoup réfléchir, à force de réfléchir, ils vont étendre leur mentalité, ils seront des experts dans la réflexion et dans la création des idées. Mais on travaille beaucoup avec notre force, c'est pourquoi on est plus fort. Donc, dans la persévérance, il y a des forces qui s'accumulent. J'ai dit que si tu vois, tu prends une goutte d'eau, tu jettes sur un rocher, au même rythme, aux mêmes secondes, ici, quelque temps, tu fends le rocher. Pourquoi? Parce que dans la persévérance, il y a une accumulation de force et de pouvoir. Et c'est quand on dit le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Dans notre marche avec Dieu, ceux qui vont persévérer dans la constance à bien faire vont accumuler une certaine capacité qu'il n'y a rien qui pourra leur faire obstacle. Ils vont passer tous les obstacles jusqu'à entrer dans le royaume et apprendre. Le royaume, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour ton épanouissement et pour ta croissance. C'est ça le royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume, t'emparer du royaume, si tu n'es pas un homme persévérant dans la vie. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Il faut être persévérant. Même si tu es à la maison, dans ton foyer, tu dis quelque chose à ton mari tous les jours, n'écoute pas. Il ne faut pas te décourager. Il faut être persévérant. Tout le monde est avec moi, persévérance. Dis plus fort, persévérance. Donc, il faut continuer à lui dire les mêmes choses. Continue à lui dire, chérie, j'ai dit, je n'aime pas ça. Chérie, je l'ai dit, je n'aime pas ça. On a l'histoire du juge unique et de la femme. La Bible dit, le juge unique dit, je ne connais pas Dieu, Dieu ne m'intéresse pas. Mais parce que cette femme m'importune, elle est toujours là à la même heure, 7 heures. Et je suis fatigué, donnez-lui ce qu'elle veut et qu'elle parte. Pourquoi? La persévérance a un pouvoir. Qu'est-ce que tu cherches que tu n'as pas encore eu? Persévère. Tu l'auras au nom de Jésus. Je dis, tu l'auras au nom de Jésus. La bénédiction va venir au nom de Jésus. L'argent que tu cherches va venir au nom de... Ne prends pas de raccourcis. Les raccourcis conduisent dans le piège. Fais confiance en Dieu jusqu'au bout. Satan va te proposer une alternative pour te dire, non mon frère, tu attends, il y a longtemps tu attends. Regarde le truc que tu cherches là. C'est vrai que ça ne ressemble pas trop, mais c'est comme ça, ça ressemble un peu. Et puis tu dis, ok, j'ai trop attendu, je ne vois pas ce que je veux. Moi, je voulais une Mercedes blanche, mais comme Satan me propose une Toyota qui est c'est beige, je vais prendre c'est blanc, c'est pas beige, blanc, c'est la même chose. Non, frère, ce que tu veux là, Dieu peut te donner. Mais il faut être patient. Il faut être patient, il ne faut pas être pressé. Moi, je suis allé souvent, j'étais dernièrement à Lagos, après j'étais en Afrique du Sud là, mais j'ai rencontré des pasteurs. Si tu vois leur domaine, pasteur Albert là, qui sera ici bientôt en décembre à Pretoria, on était ensemble il y a 2 semaines, mais il faut voir ce que Dieu est en train de faire par sa vie. Mais tu sais, tu ne peux pas dire oui parce que Dieu est en train de bénir un tel homme, alléluia, bon moi aussi je vais sauter, il faut que je... Non frère, il faut être calme, il faut être patient. Chaque chose vient en son temps. Je n'ai aucun doute que si toi tu deviens bien, tu ne peux pas m'oublier, ça je sais. Donc pourquoi me fatiguer pour chercher à faire des choses? Je vais prier et m'atteler à ce que tu sois bien, que tu réussisses, que ta vie marche. Et puis bon, si tu as pensé à moi, gloire à Dieu. Mais dans tous les cas, l'ouvrier mérite son... Ils sont en train de rire. On dit, le pasteur plaide pour sa cause. Je ne plaide pas, je te dis la vérité. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Toi, mais tu ne vois pas que Dieu est fidèle? Parce que Dieu va toujours démontrer qu'il est celui qui est le commencement et le finisseur. Donc, il ne faut pas te presser dans la vie. Sois calme. La chose va venir. Il ne faut pas te presser de rouler X, X. Mais tu as fait quoi X? Tu ne peux même pas entretenir la voiture. Parce que tout le monde roule X, X. Bon, il me voit pour montrer que tu es quelqu'un, tu as réussi. Maintenant, tu blagues les gens que tu as réussi. On vient te voir pour te donner 100 000 francs. Tu donnes 25 000. Tu as réussi. Donne l'argent maintenant. Tu ressembles à un figuier que je connais dans la Bible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Luc 11, verset 5 à 8. Et on va passer à la dernière loi et on va terminer. Luc 11, 5 à 8.
Luc 11, 5 à 8, la Bible dit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit.
Amen. Ici également, Jésus nous donne un exemple de persévérance. Alléluia. Je voulais qu'on voit ce verset. Maintenant, il y a quelqu'un, par exemple, qui s'est découragé dans la Bible, qu'on sait l'histoire d'Élie. Alléluia. Dans 1 Roi 19, verset 4, face à Jézabel. Il a dit au Seigneur de le prendre. Il veut mourir parce qu'il s'est retrouvé devant une femme qui avait un charisme et qui a résisté à son pouvoir. Maintenant, il demande au Seigneur de venir le chercher. Dieu dit non, pourquoi il vient te chercher? Hein? Il faut persévérer. Parce qu'il y a des gens, quand ça ne va pas dans la vie, ils ont tellement reçu de réveil, ils pleurent toute leur prière. Seigneur, viens me prendre. Seigneur, viens me prendre. Dieu n'a pas besoin de toi au ciel maintenant. Dis amen. Il ne faut pas aller fatiguer les gens là-bas. Tu as ta place ici, il y a des combats que tu dois gagner. Dis amen. Amen. Alléluia. La dernière loi est ce que j'appelle la loi de l'échec. Tout le monde dit la loi de l'échec. Il faut comprendre également cette loi importante. Si tu veux devenir grand, tu dois saisir cette loi. Alléluia. Toute personne qui va réussir doit apprendre à réussir ses échecs. Il faut écrire ça. Toute personne qui veut devenir grand dans la vie doit apprendre à réussir ses échecs. Comment réussir ses échecs? Ça, c'est un autre volet qu'on va voir plus tard. Mais je voulais te dire que c'est une loi importante. Alléluia. Un homme qui n'a pas compris que dans le processus de la grandeur, l'échec fait partie, est un homme qui n'a rien compris. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas ça, à un réveil, tu vas abandonner. Tu vas dire, oui, bon, c'est vrai, Dieu m'avait dit, mais de toute façon, j'ai échoué là. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Dieu de me parler, pour me dire que ce n'est pas ça? Et tu vas abandonner, tu vas aller recommencer ailleurs. Alors que l'échec fait partie du succès. Alléluia. On apprécie le succès parce qu'il y a eu échec un jour. Donc, pour pouvoir arriver au sommet, il faut pouvoir apprendre à réussir ses échecs. Alléluia. Dites amen. Apprendre à réussir ses échecs. C'est très, 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 très important. Satan va toujours t'attaquer. Et Satan va toujours se présenter à toi au niveau où il t'a vaincu. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui n'apprend pas à réussir ses échecs est un chrétien qui va avoir des limites. Parce que le diable a une caractéristique. C'est que quand il t'a vaincu à un niveau, ça devient ta limite. Tant que tu ne reviens pas au même niveau pour le battre, là, tu ne passes pas. C'est pourquoi, je vais vous donner l'exemple de ce pasteur-là, Idao Sa, qui a dit un jour qu'ils étaient allés évangéliser quelque part dans le nord du Nigeria. Ils ont pris un avion et je vous assure, il y a eu des choses dans l'avion. Ça dit que le diable a tellement attaqué l'avion que l'avion a commencé à bouger comme ça. Et l'évêque, le pasteur qui était à côté de lui a dit, pasteur, on va faire notre dernière prière parce qu'on va mourir. Et l'avion n'a pas pu continuer. Ils ont dû atterrir quelque part et puis repartir en voiture. Et Idaho, ça, le pasteur était très content. Il dit, Dieu merci, on va prendre la voiture, on va aller. Idaho, ça dit, lui, il ne va pas au lieu du programme. Il faut qu'il retourne et reprendre le même avion là. Pour aller là où il devait faire le programme. Le pasteur dit, lui, il a réveillé Daoussa qui arrive. Bon, dans tous les cas, moi je sais qu'il a envoyé un message à sa femme, à ses enfants. Daoussa, qui est un pasteur vraiment d'une foi exceptionnelle, lui a dit, si on ne remonte pas dans le même avion, pour aller affronter Satan là où il nous a défiés, on ne passera plus jamais ce niveau. Donc, ils sont retournés, ils ont repris le même avion. Et puis, à monter dans l'avion, arriver à un autre niveau, les mêmes trucs ont commencé. Le pasteur là qui a raconté l'histoire, il voyait Idaho ça assis comme ça, qui a attrapé les chaises. Et puis, la seule chose qu'il disait, il poussait des trucs comme ça, comme s'il enfantait. Il faisait comme des gémissements, il disait Jesus, mais c'est des trucs. Il voyait Idaho ça qui priait, mais c'est des gémissements. Ça dit, Idaho, c'était un combat terrible. À un moment donné, il dit, il a vu l'avion se stabiliser. Et Idaho, ça l'a regardé. Idaho, ça lui a dit, on a passé le niveau. Il dit, ça l'a marqué. Sinon, mon frère, à chaque fois que tu prends l'avion, tu vas voir, Satan va venir t'attendre là pour te dire, ici, là, tu ne m'as jamais passé. Non, ouais, le diable va toujours vous attendre là où il vous a vaincu. C'est pourquoi si vous ne savez pas réussir vos échecs, vous établissez une limite à votre vie. L'échec, c'est rien. Quand on réussit l'échec, ça devient une expérience. Dites amen. Donc si tu as échoué hier, ce n'est pas grave. Ce n'est pas fini. Tu as fait la chose, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Vous connaissez l'histoire d'Abraham Lincoln, ce grand président des États-Unis. Comment il a eu des réveils, il a échoué. Combien de fois avant de devenir ce qu'il est? Celui qui a été à la base de la lumière, comment on appelle son nom? Edison. Hein? Combien d'expériences? La Bible dit des centaines d'expériences et d'échecs avant d'arriver à trouver la formule pour monter la lumière électrique. Aujourd'hui, on en bénéficie. Mais derrière ce grand homme, il y a une histoire. Dans son histoire, il y a son secret. Dis à ton frère, n'aie pas peur d'entreprendre à cause de l'échec. Parce que beaucoup de gens n'entreprennent pas ou ne font pas des affaires ou n'arrivent pas véritablement à atteindre certains niveaux parce qu'ils ont simplement peur d'échouer. C'est des peureux. De grands peureux. Dans la vie, on acquiert des expériences par deux voies. Numéro un, par un père qui te dit, ça on fait ça, ça on fait pas ça, ça on fait ça. Donc tu peux acquérir l'expérience par quelqu'un qui a déjà eu à passer l'épreuve et qui peut te dire, non, voilà comme ça, tu peux acquérir une expérience, n'est-ce pas? Et la deuxième voie, c'est par l'échec, par ses échecs. Donc il n'y a pas de choix. L'échec est une bonne chose. Échouer dans la vie n'est pas une fatalité. L'échec est une occasion de recommencer, mais de recommencer avec intelligence. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ceux qui ont peur de chouer n'entreprennent jamais rien et donc font quoi? Donc atrophient leur potentiel et privent le monde de grandes bénédictions que Dieu a placées en eux. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne suffit pas de proclamer les principes, mais il faut comprendre que si tu as échoué aujourd'hui, demain tu peux recommencer. Donc ton échec d'hier ne garantit pas ou ne fera pas ton échec de demain. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas encore échouer. Tu vas passer cette fois-ci. Dis amen, dis je passe au nom de Jésus. Il faut apprendre de nos échecs. Parce qu'un homme qui apprend de ses échecs est un homme qui ne commettra plus la même erreur. Quand il va arriver face au même défi, il saura comment faire pour passer le défi. Mais un homme qui n'apprend pas de ses erreurs, il y a des gens qui sont toujours en train de mettre les fautes sur les autres. Ça ne va pas, il dit non, c'est lui. Pourquoi ça n'a pas marché? Il va trouver une raison de dire que c'est à cause de la crise ivoirienne. Pourtant, c'est un mauvais manager. Mais pour lui, là, il ne voit pas. Donc, il faut pouvoir souvent faire des analyses objectives quand les choses n'ont pas marché. Et faire quoi? mettre le doigt sur, là où il y a eu problème. Ça peut être toi le problème. Je vous assure, dans nos maisons, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment nous, hein. Et surtout nous les hommes. Très souvent, les tensions dans les foyers, là, ce n'est pas vraiment les femmes. Non, non, les femmes, il faut apprendre à les connaître. Ce n'est pas les femmes, hein. C'est nous. On est orgueilleux, on est truc, on est les chefs, toujours on est chef, 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 chef. On aime bien brandir ce panneau de chef là. Je ne sais même pas pourquoi on est complexé même. C'est moi le chef. Alléluia. Donc, c'est souvent nous le problème. Et reconnaître que ça n'a pas marché parce que j'ai mal fait va t'aider à réussir. L'humilité, c'est ça. Dites amen. Dites amen. Donc, quel que soit les réveils que tu as eu, je voulais t'encourager ce matin. Ce n'est pas encore tard. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Tu peux encore recommencer. On a vu l'argile entre les mains du potier. Alléluia. Quand l'argile ne va pas bien, il casse encore et puis il recommence. Alléluia. Il casse encore et il recommence. Alléluia. Tu es toujours entre ses mains. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu n'es plus entre ses mains. Tu es toujours entre ses mains. Dis, je suis toujours entre ses mains. Alléluia. Très, très important. Tu es toujours entre ses mains. Frère, la clé pour comprendre la vie ne se trouve pas dans la vie elle-même, mais se trouve dans celui qui a l'origine de la vie. Et toutes ces paroles que je suis en train de partager avec vous, c'est pour vous aider à comprendre la vie et à ne pas échouer. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu vous envoie quelque part. Il faut en être convaincu. Il faut en être persuadé. Et quel que soit ce qui arrivera, il faut rester ferme. Nous, les pasteurs, il y a des moments où les choses ne marchent pas comme on veut. On peut vouloir faire quelque chose, ça ne marche pas comme ça. Mais on est toujours persévérant. On croit toujours en Dieu. Moi, je crois en Dieu que, ici, 3 ans, les objectifs qu'on s'est fixés là, on va les atteindre. On va les atteindre. J'ai décidé de prendre mes responsabilités et de travailler dur pour qu'on puisse les atteindre. Et on les atteindra. Je dis on les atteindra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Mais en atteignant nos objectifs, parce que dans ces objectifs-là, il y a toi qui es ton épanouissement personnel, ta grandeur. Je veux que vous arriviez à un point où vous devenez des chrétiens, mais non pas des chrétiens ordinaires qui êtes dans une église par juste émotion ou par sentiment ou par attachement à une personne, mais que votre attachement à une église ou votre appartenance à la vie chrétienne soit un attachement qui est sincère, basé sur le fait que j'ai accepté le Seigneur, je suis béni là où je vais, j'apporte également, point. Ce n'est pas quelqu'un. Maintenant, quand on arrive à ce point-là où notre attachement à la communauté, notre attachement n'est plus à une personne mais à la communauté, alors qu'une personne soit absente ou pas, on n'est pas attaché à une personne, on est attaché à l'ensemble, à la communauté. Nous travaillons pour un objectif. Voilà comment on bâtit une grande église. Et je veux que vous et moi, nous puissions bâtir une grande église pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Si quelqu'un est d'accord, il acclame le Seigneur.
Merci de bénir votre église et de permettre que cette église soit aux avant-gardes dans la prière pour que cette nation soit sauvegardée. Accompagne chacun et que ta paix et ta grâce demeurent dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Salut toi, personne, et dis un bon dimanche.
J'aimerais que ce matin on rende l'honneur et la gloire à Dieu en lui offrant des offrandes. Rends-lui toute la gloire ce matin parce que tu es là. Ce n'est pas en vain et ce n'est pas de façon fortuite. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Alléluia! Alléluia! Je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia Dieu!